Je me vois plutôt aller à prison avec Kelly qui fait la présentation.
Bonsoir, le secrétaire général du MLC dément les accusations du gouvernement relatives à ce qu'il qualifie de participation intellectuelle des députés de l'opposition dans les derniers événements de Mbandaka. Qu'est-ce qui justifie les accusations du gouvernement et comment analyser la réaction du MLC? Ce sont les grandes questions au centre de notre débat de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission Lambert Mendo Malanga, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement central. Il est en ligne. Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir, madame.
Jean-Lucien Boussa, député national et secrétaire général adjoint du MLC, chargé de l'idéologie et programme, dans ce studio avec moi. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Et Arsène Mouaka, analyste et coordonnateur du Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Il est aussi en ligne. Bonsoir, monsieur Mouaka.
Bonsoir.
Vous êtes nombreux à réagir au débat de ce soir, vous, auditeurs des Radio Okapi. C'est le cas de Maurice Kongoli Atekama de Kisangani en province orientale. Accuser l'opposition d'être responsable de ces troubles n'est qu'une façon de chercher à écarter tous les opposants de la course et surtout des élections qui se préparent. Le pouvoir en place doit prendre toutes ses responsabilités pour sécuriser que de chercher à intimider les autres. Sylvain Dimanja Ongona de Bunia, nous assistons à un jeu de ping-pong entre les MLC et le gouvernement. Que chaque camp nous dise qui sont les véritables tireurs d'épicelles concernant les MLC. Ne serait-ce pas une mascarade car les élections approchent. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
La démenti du secrétaire général du MLC aux accusations du gouvernement qui implique l'opposition dans les événements de Mbandaka, François Mwamba, estime qu'il s'agit là d'une fuite en avant de l'exécutif qui a failli à sa mission de répondre aux aspirations de la population. Le MLC et l'opposition en général n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé dans la ville de Mbandaka, a déclaré François Mwamba dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi. Le député national François Mwamba est au micro de Jack Ngoy.
Il s'agit d'une fuite en avant du gouvernement et quelque chose finalement qui est inscrit dans la logique de la manière dont ce gouvernement travaille depuis 2006. Tout ce qui est en rapport avec les armes, ça n'a strictement et ne peut strictement rien à voir avec les MLC. Je voudrais de ce point de vue que les choses soient très claires. Il y a de ce point de vue là, je ne parle même pas d'un déficit, mais c'est une absence totale, pour ne pas dire une faillite totale de ce gouvernement quant à son aptitude à pouvoir répondre aux aspirations de la population. Veulent-ils aujourd'hui tenter de masquer cet échec qui est là, qui est patent, en voulant chercher de boucs émissaires du genre, nous savons ce qui se passe en Mbandaka, c'est commandité par des hommes politiques, ils sont tous à Kinshasa, c'est des élus, regardez par là, ça ne peut être que du MLC. Je demande la manière une fois de plus, la plus catégorique que ce soit les MLC ou l'opposition d'une manière générale, je parle de l'opposition républicaine que nous constituons notamment au niveau du Parlement, nous n'avons strictement rien à voir avec ces choses-là.
Monsieur le ministre, vous venez de suivre l'honorable François Mwamba qui pense que vous accusez faussement l'opposition. Sur base de quoi vous dites qu'il y a des députés nationaux et provinciaux qui sont derrière cette situation de Mbandaka?
Je voudrais d'abord que vous ne transformiez pas les propos de l'honorable Mwamba. L'honorable Mwamba dit, prétend que nous avons accusé le MLC. Je ne sais pas d'où il a tiré cela. Je m'étonne que le gouvernement parle de députés et dans une question de précision d'un journaliste que nous parlions de députés qui pourraient appartenir à l'opposition et que le MLC puisse faire des dénégations en disant ce n'est pas le MLC. Il y a quand même là un problème. Personne n'a accusé ni le MLC ni l'opposition. Ce que le gouvernement a dit, c'est que des députés ont été cités par des personnes arrêtées parmi les assaillants de Mbandaka, et qu'en tout état de cause, le gouvernement s'interdisait d'aller plus loin parce qu'il appartient à la justice d'interférer avec l'institution parlementaire pour voir des députés ayant été cités, comment ils pourraient être amenés à aider la justice et qu'on puisse instruire à charge comme à décharge. Donc, M. Mwamba nous accuse de quelque chose qui n'existe pas. Nous n'avons pas accusé quelqu'un ni d'opposition et encore moins du MLC. Je suis étonné qu'on démente une information qui n'a pas été donnée par le gouvernement.
Monsieur le ministre, mais pourquoi vous ne citez pas les noms de ces députés au lieu de laisser un suspense dans les têtes des Congolais?
Et il n'y a pas question de laisser un suspense, de ne pas laisser un suspense, madame. Il y a une vision du travail social dans notre ordonnancement juridique. Il n'appartient pas au gouvernement de mettre des gens en accusation. Il appartient à l'institution judiciaire de pouvoir faire son travail. Il y a eu des choses qui ont été citées au niveau des services qui dépendent du gouvernement. Rapport nous a été fait. Instruction a été donnée à ces services qui sont en même temps des auxiliaires de la justice, de transférer les dossiers à la justice, et maintenant la justice fera son travail. Le gouvernement, par transparence, a communiqué à l'opinion publique ce qui lui a été donné comme information sommaire, préliminaire, de la part de ces services, que sont la police, la sécurité civile, la sécurité militaire. Maintenant, j'apprends qu'on aurait accusé le MLC de plus, alors que personne, même dans les informations que nous avons laissées filtrer, n'a cité ce parti. On dirait que qui se sent mauvais se mouche.
Merci, monsieur le ministre. Jean-Lucien Boussard, vous êtes du MLC. Vous venez de suivre le ministre dans ses déclarations. Il n'a pas cité les députés du MLC. Pourquoi le MLC est agité?
Je crois que c'est le gouvernement qui est agité et le porte-parole du gouvernement davantage. Lorsque dans sa dernière prise de position, sinon dans sa dernière présentation, il s'est agité contre l'opposition, il s'est agité, il s'est empris sérieusement contre la MONUC. Je pense que la balle se trouve de ce côté-là. À se demander si le gouvernement n'a-t-il pas peur de pouvoir apparaître comme ses complices qui n'a pas voulu agir dans les délais. Le ministre, la communication est presque très bien. Et tous les membres du gouvernement, y compris le Premier ministre, savent très bien que lorsque ce conflit se déclenche, c'est un conflit entre deux villages. Et c'est en 2009, précisément. À cette époque, les députés nationaux, par des initiatives parlementaires, mais aussi, je dis, à travers les initiatives parlementaires, qui sont orales avec débat, adressant au ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale, par des contacts où moi-même j'ai pris part, en tant que député originaire de l'Équateur, auprès du Premier ministre, auprès du ministre de l'Intérieur, alors que les conflits n'étaient que localisés, le gouvernement, aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial, est resté immobile, est resté indifférent. Et pourtant, si le gouvernement avait anticipé, si tout ce que les députés nationaux avaient souhaité en termes de propositions par rapport à la réduction de cette espèce de conflit qui se développait à l'époque entre les Mosaïa et les Ingeni, aujourd'hui on n'en serait pas là. Je pense que lorsque le gouvernement s'agite, il est conscient qu'il assume la pleine responsabilité de par son intérêt par rapport à la situation à l'Équateur. Je vous dis par exemple que nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur à l'époque, M. Mouyou. Nous lui avons dit en tant qu'élus nationaux que la situation qui s'est passée à Dongo nécessité des mesures d'urgence pour éviter que les populations ne puissent en subir les frais, les conséquences. Mais quelle a été la réponse du gouvernement à l'époque? Aucune réponse. Nous rencontrons le Premier ministre, les élus, plus de 50. On pose la question au Premier ministre. Le ministre nous dit, dans 48, il va répondre à la question. Une année après, on en arrive à des débordements et on cherche des boucs émissaires aujourd'hui.
Oui, honorable Jean-Lucien Boussard, mais pourquoi se démentir seulement du MLC et pas de notre parti de l'opposition?
Ce n'est pas un démenti du MLC, c'est une position du MLC face à la responsabilité du gouvernement par rapport à son incapacité à pouvoir anticiper sur des risques sécuritaires, par rapport à son incapacité de pouvoir gérer un conflit alors localisé qui pouvait être géré à la limite au niveau de la province de l'Équateur, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous en sommes là où on en est à cause de l'immobilisme du gouvernement, à cause de l'incohérence du gouvernement. Savez-vous, à l'époque, le même ministre de la Communication et Presse, que je respectais beaucoup, n'est-ce pas, avait déclaré à l'époque qu'il ne s'agissait que des bandits drogués, en réalité, qui n'avaient aucun soutien politique, etc., etc., n'est-ce pas, et que l'affaire était terminée. Là où le gouverneur des provinces déclarait qu'il s'agissait d'une rébellion qu'ils ont maquée. Même par rapport à la nature du conflit, les gouvernements à la fois national et provincial sont capables de pouvoir nous dire de quel conflit s'agit-il.
Merci, honorable Jean-Lucien Boussard. Vous êtes encore avec nous dans ce débat. Arsène Mouaka, vous êtes analyste et coordonnateur du Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Comment comprendre cette accusation du gouvernement qui parle de certains députés nationaux et provinciaux sans citer les tendances ou les noms qui sont derrière cette situation de Mbandaka?
Oui, je crois que c'est quand même un peu déplorable de voir que la gestion d'une question aussi importante que celle de la sécurité des citoyens soit gérée dans un ping-pong médiatique. Je crois que cela interpelle pratiquement nos dirigeants politiques et leur dit qu'ils doivent encore prendre au sérieux la gestion du pays, quand bien même il y a une opposition et il y a un gouvernement. Je crois que tout se retrouve dans les institutions, ils se retrouvent au Parlement, où ils peuvent participer de manière constructive à la gestion du pays et amener le gouvernement à décider dans le sens le plus correct. Et cela dénote justement des logiques de guerre qui n'ont pas été rompues, puisque la plupart des formations politiques se retrouvent aujourd'hui sur la scène politique, proviennent pratiquement de situations de guerre et ne se sont pas détachés pratiquement des réflexes et des méthodes de guerre. Et donc, il suffit qu'il y ait une question de guerre pour que l'on puisse regarder vers l'adversaire d'hier, ou alors il suffit que l'adversaire d'hier parle pour qu'on puisse dire « il m'accuse ». Et donc, c'est ce à quoi on assiste et en suivant les deux acteurs, je crois qu'on se rend compte que lundi, je n'ai accusé personne, l'autre dit « tu m'as accusé, d'ailleurs tu es irresponsable ». Et donc, c'est cette manière de gérer les crises qui a conduit par le passé le pays à se retrouver pratiquement dans un alignement et une indemnisation des violences qui pratiquement prennent tout sur leur parcours, prennent tous les aventuriers et amènent pratiquement à une sécurité permanente du pays. Et donc, je crois qu'il y a lieu de rompre ces logiques et prendre la gestion du pays au sérieux.
Merci, Arsène Matin. Monsieur le ministre, il y a quelque temps, lorsqu'il y a eu des affrontements à Dongo, vous avez déclaré encore une fois qu'il y avait des députés qui étaient derrière cette situation, toujours sans citer les noms. Vous nous avez dit que la justice ferait son travail, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelle est la suite de ce dossier?
Jusqu'au moment où nous avions fait notre communication concernant les affrontements de Dongo, nous n'avions pas d'éléments permettant de mettre en cause quelconque politique que ce soit, député ou autre. C'est ce que nous avions dit, que nous n'avions pas, en l'état des enquêtes telles qu'elles se présentaient au jour où nous communiquions à ce moment-là, c'était effectivement encore concentré sur le territoire de Kungu, dans le sud d'Ubangi. Nous n'avions pas d'éléments et nous avions même exprimé notre satisfaction de voir que la classe politique n'était pas mêlée au niveau des enquêtes telles qu'elles se présentaient ce jour-là. Maintenant, ce mouvement s'est délocalisé de Dongo, où la paix règne maintenant, du sud d'Ubangi, où la paix règne maintenant, vers un circuit qui passe par Bomongo, Makanza, Nganda Congo et maintenant Mbandaka. Et là, selon les renseignements qui nous parviennent de par nos services qui sont impliqués dans les enquêtes, qui sont impliqués aussi dans la répression de ce mouvement, il y a implication de personnalités politiques. Et comme l'a dit l'expert, nous avons préféré que cela soit géré au niveau des institutions compétentes. C'est pourquoi, tout en faisant preuve de transparence, en annonçant que la liste des auteurs intellectuels s'allongeait et qu'il y avait probablement des acteurs politiques, nous nous sommes retenus de citer de quels acteurs politiques il s'agissait, au risque d'être accusés de faire le travail de l'institution judiciaire. Maintenant, on veut nous amener dans une polémique qui n'a pas lieu d'être dans un état de droit. Si quelqu'un est soupçonné à tort, du moment que c'est en justice, je pense que si nous reconnaissons tous l'autorité ou le pouvoir judiciaire, il va falloir attendre que le pouvoir judiciaire qui est saisi puisse apporter des éléments de réponse. Sur ce qui s'est passé à Dongo même, on ne peut pas dire, bien sûr, c'est une habitude pour une opposition de dire que le gouvernement est immobile, que le gouvernement est irresponsable, c'est un peu des thèmes comme ça habituels, mais dans la réalité, le gouvernement a géré ce qui s'est passé à Dongo. Nous avons mis en place un dialogue intercommunautaire et je vous assure qu'il y a des Monzaya et des Enyele qui vivent en bonne intelligence maintenant à Dongo et que ces gens qui continuent, c'est un noyau dur qui s'est détaché du secteur de Dongo, du territoire de Kungu et même du district du Sud-Ubangi pour amener les problèmes en Bandaka. Peut-être qu'ils y ont été envoyés, la justice nous le dira. Nous ne pouvons pas nous mettre à faire des supputations, ce n'est pas notre travail. Nous constatons simplement que Mbandaka a été attaqué par un noyau, ce n'est pas tous des aignelés. On ne peut pas dire d'ailleurs qu'il s'agisse des aignelés, nous les appelons des assaillants, parce qu'il y a des aignelés bons citoyens qui vivent en bonne intelligence avec leur environnement sociologique à Dongo. Nous en sommes très satisfaits et donc ce sont des malfaiteurs. On ne peut pas présenter ces gens-là comme un groupe représentatif d'un groupe social quelconque dans le secteur de Dongo ou le territoire de Congo. Voilà ce que je peux dire à ce sujet-là.
Oui, monsieur le ministre, il y a un député provincial du MLC qui avait été arrêté après les événements des Dongo. On n'a pas de suite jusqu'à ce jour. Où est-ce qu'il est devenu?
Le député provincial a été appréhendé lorsque, au niveau, je crois, de Boubourou ou de Bomongo, le noyau dur des assaillants a perpétré encore un coup, qu'il s'est frotté aux forces armées de la République, qu'il y a eu des arrestations parmi certains dirigeants de ce groupe, et c'est dans l'interrogatoire de ces personnes qui ont été prises, notamment le chauffeur d'Onjani, que le nom du député provincial a été cité et qu'il a été appréhendé parce que on se trouvait dans un cas juridiquement qualifié de cas de flagrance et qu'il est en train de faire l'objet d'une instruction judiciaire en bonne et due forme auprès de la justice militaire compétente pour ces cas, c'est-à-dire des agressions avec armes à feu.
Merci, monsieur le ministre, honorable Jean-Lucien Boussa. Je vous vois demander la parole, vous l'aurez. On sait que le MLC est très populaire dans la province de l'Équateur, mais après les événements, les affrontements de Mbandaka, aucune déclaration du MLC. Vous êtes resté silencieux.
Mais nous venons de réagir.
Aujourd'hui seulement?
Oui, mais c'est opportun. Après que le gouvernement ait donné son point de vue, nous avons réagi, donc c'est clair. Je voudrais simplement dire deux, trois petites choses. Le ministre a parlé de l'état des droits. Je suis désolé que ce soit lui qui parle de l'état des droits au moment où un député provincial, MLC, a été enlevé, séquestré dans la résidence du commandant de la 3e région militaire et amené manu militari à Kinshasa. On ne sait pas où il est, on ne sait pas où il est donc incarcéré et comment s'est construite la procédure, n'est-ce pas? Pour les députés provinciaux, à la limite, la loi exige, quel que soit les cas, même si c'est les cas de flagrance, que la procédure soit respectée. Là-dessus, l'état des droits dont parle le ministre, c'est vraiment de la fumée. Hein. Des irresponsabilités du gouvernement, c'est pas un slogan creux, c'est la réalité. Moi qui vous parle, je suis élu de la province de l'Équateur.
Vous dites ça parce que vous êtes de l'opposition ou...
S'il vous plaît, j'ai participé à toutes les rencontres depuis février 2009 jusqu'à aujourd'hui, quand c'est nécessaire, avec les différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, avec les ministres de la Défense nationale, avec les premiers ministres. À l'époque, j'ai discuté avec le directeur de cabinet du chef de l'État, aujourd'hui vice-premier ministre, à ce sujet. Et aucune réaction n'est arrivée. Attends, comment peut-on appeler ça si ce n'est pas de l'irresponsabilité? Au niveau du gouvernement provincial, aucune entreprise positive n'a été menée pour pouvoir gérer de manière rapide et prompte la situation. Comment ne peut-on pas appeler ça irresponsabilité, sinon incapacité? Non, mais c'est clair. Troisième élément, mais des cas similaires sont signalés ici et là, toujours mal gérés. Je vous rappelle qu'il y a eu des conflits entre deux groupements dans mon siècle électoral à Boujara. 321 cages ont été brûlées. Nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale. Nous avons vu le ministre de l'Intérieur, le directeur de cabinet du chef de l'État. Le dossier est entré depuis et sans suite au ministère des Affaires humanitaires, Budget et Finances, sans solution. C'est avec le moyen de bord des députés que nous sommes déplacés, prenant les risques, bravant même les dangers, pour pouvoir concilier les gens. Jusqu'à ces jours,
le gouvernement n'a rien fait.
Le gouvernement n'a rien fait. C'est ce type de gestion, n'est-ce pas, simpliste, c'est ce type de gestion irresponsable qui peut amener à ce type de conflit aujourd'hui à Bongananga. Pareille situation s'est signalée, n'est-ce pas? À Kabeakamwanga, à Katana, on déplore ce type de situation. Le président de l'Assemblée nationale. Non, c'est la réalité. Le président de l'Assemblée nationale a écrit au premier ministre par rapport au dossier dont je viens de faire allusion. Depuis plus de 10 mois, aucune solution n'a été faite. C'est le cas du dossier des Dongo, où le gouvernement a gardé une indifférence responsable. Aujourd'hui, le gouvernement devra assumer
Et je pense que l'honnêteté voudrait que l'on dise la vérité là où ça n'a pas été. Par exemple, lors de la conférence de presse du ministre de la Communication, il a parlé du dysfonctionnement des services de sécurité. Et là, il a eu raison.
Merci, honorable Jean-Luc Moussa. Je vais lire quelques réactions et questions des auditeurs auxquelles vous allez répondre. Augustin Mwango de Kindu Manima. Je pense que le gouvernement congolais ferait mieux de ne plus banaliser les problèmes sécuritaires au lieu de chercher à attribuer les responsabilités de ses défaillances sur les autres. Arsène Mwaka, comment vous répondez à cet auditeur?
Oui, je crois que sa remarque vaut son pesant d'or. L'histoire récente de notre pays nous renseigne que la même manière de gérer des petites crises a conduit parfois même à des renversements de pouvoir. On peut le voir avec l'Afden, sous Mobutu, on peut le voir avec le RCD, et on peut le voir avec Kunda, et on peut le voir, comme venait de dire le député Boussa récemment, sur base des situations qui s'observent à travers le pays. On peut le voir en Ituri, notamment dans la partie de qui, où pratiquement chaque jour, c'est la montée des violences et on ne sera pas un gouvernement qui réagit. Donc, les petites situations, le plus souvent, finissent par dégénérer et conduisent parfois à retrouver une situation incontrôlable. Et donc, je crois, au lieu d'accuser, il convient d'agir, de peser dans les rapports de force sur le terrain. Cela demande non pas la désignation de l'adversaire potentiel, mais plutôt la saisie des acteurs, l'arrestation, des actions militaires et des actions d'intelligence. Et je crois que ça présentait un peu de défaillance. Et cela n'est pas seulement de la responsabilité du gouvernement, parce que je crois que la question Agnellet est co-gérée. Et là, je vois un peu la MONUC qui, apparemment, ne semble pas se sentir concernée par cette question. Elle regarde le gouvernement, alors que tout le monde sait les limites de notre gouvernement dans la gestion de ce genre de questions. C'est même la raison de la place de la MONUC.
Malheureusement, la MONUC n'est pas là pour réagir. Allez-y, M. Mwaka.
Oui. Et donc, je me dis qu'il va falloir que notre gouvernement s'assume, d'autre part, que la MONUC aussi s'assume. C'est anormal que tout le monde soit surpris par la présence d'un groupe de gens qui n'ont pas de moyens de se déplacer, qui prennent en otage des bateaux et qui se retrouvent à Mbandaka, se promènent et finissent leur promenade, rentrent, et on ne sait pas vraiment une grande action qui est de nature à décourager de telles aventures. Je crois que si le gouvernement et la communauté internationale continuent à gérer la gestion de notre pays de ce genre, je crois que ceux qui ont été habitués à taper le pouvoir par les armes continueront.
Voilà, il y a aussi Maurice Kongoli à Tekaba de Kisangani en province orientale qui dit ceci: accuser l'opposition d'être responsable de ces troubles n'est qu'une façon de chercher à écarter tous les opposants de la course et surtout des élections qui se préparent. Le pouvoir en place doit prendre toutes ses responsabilités pour sécuriser que de chercher à intimider les autres. Arsène Mwaka.
Oui, je crois qu'il faut dire aussi du côté de l'opposition qu'il n'y a pas eu une prise de position claire. Je crois que l'opposition se veut républicaine, comme le secrétaire général l'a dit et comme l'a répété le secrétaire général adjoint du MLC. L'opposition se veut républicaine, donc nous sommes dans un contexte de démocratie. Quand une situation de violence se présente, il y a lieu qu'une position claire contre les violences puisse se présenter, mais on ne l'a pas spontanément attendu. Et donc, il y a de quoi s'interroger si on est à face de quel démocrate. Il serait quand même intéressant de voir que nous rentrons dans des logiques de démocratie plutôt que des prises de position justificatoires quand on semble être à fait accusé, alors que nous devons tous nous liguer contre la violence et mettre fin à des pratiques guerroyeuses.
Merci Arsène Mwaka, Jean-Lucien Boussa, Sylvain Zimandja, Ongana de Bouni en province orientale. Nous assistons à un jeu de ping-pong entre les MLC et le gouvernement. Que chacun nous dise qui sont les véritables tireurs des ficelles concernant les MLN. Ne serait-il pas une mascarade car les élections approchent? Il y a aussi César de Bouni en province orientale. Le peuple n'a pas besoin des discours illusionnistes des politiciens. Que chacun se responsabilise dans son secteur. Raymond Kasangala de Kinshasa, vu la complexité du problème des MLN, M. François Mwamba ne doit réfuter l'implication des quelques opportunistes politiques qui n'ont pas trouvé
leur compte au cours de ce mandat s'ils jurent que le MLC n'est pas impliqué. Mais dans l'opposition, il y a Anguille Souroche, juste en se posant quelques questions, d'où les Énélés ont trouvé les armes pour faire tomber Mbandaka, qui fournissent les armes et rations à ses combattants. Donc le gouvernement a raison de croire qu'il y a un soutien soit des membres du MLC ou de l'opposition générale. Et Augustin Matata, toujours de Kinshasa, dit avoir entendu dans les couloirs des députés du MLC et ceux originaires de Mbandaka se réjouir de ces événements comme une réponse aux appétits politiques de l'AMP.
Mais d'abord, je voudrais dire à l'espère, moi, que le MLC a réagi de manière prompte par rapport à ces événements. Mais le MLC a toujours anticipé par rapport à cela. Rappelez-vous qu'il y a quelques temps, nous avons fait des déclarations politiques pour demander qu'on arrête avec des actions de déstabilisation de la province de l'Équateur, à la fois sur le plan sécuritaire et sur le plan politique. Donc, de ce côté-là, tout est clair. Mais aujourd'hui...
Par rapport aux réactions des auditeurs.
Je suis en train d'en arriver. Je crois qu'on peut ramasser toutes ces réactions en une seule. Quelle a été la gestion de l'armée? Quelle a été la manière dont les territoires... Quelle est la manière dont les territoires est administré? On doit répondre à ces questions. L'opposition est là, mais qui gouverne? Pas seulement la tautologie, c'est la majorité qui gouverne. La majorité a l'obligation du gouvernement en particulier d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Le gouvernement a l'obligation de disposer ou de construire une armée républicaine, nationale, dotée de moyens, est capable de pouvoir assurer la sécurité des uns et des autres. Aujourd'hui, on nous dit, il y a des... C'est pas que les Émilés, il y aurait d'autres forces, et le ministre l'a dit, les autres de la communication. Il y aurait des ex-DSP, des ex-ALC et compagnie. C'est le ministre qui l'a dit. Mais on peut trouver la réponse. Mais qu'est-ce qui explique qu'on retrouve dans ce type de mouvement des ex-DSP, des ex-FAS, des ex-ALC, etc. La question, c'est de réfléchir profondément sur les tenants et les aboutissants de telles attitudes. Vous savez, encore une fois de plus, que les députés nationaux et les sénateurs, en 2007 comme en 2008, y compris en 2009, n'ont cessé d'interpeller le gouvernement sur la construction d'une armée républicaine, sur le fait de tenir compte de tous ces ex-fas qui sont éparpillés à travers le monde, qui pourtant ne demandent pas autre chose que de pouvoir intégrer l'armée régulière, qui ne demandent pas autre chose pour ceux qui ne veulent pas travailler dans l'armée, d'être réinsérés dans la vie civile. C'est aussi le cas des ex-membres des armées ex-belligérance de l'époque, qui ne demande pas autre chose que cela, mais qui a la responsabilité de pouvoir construire cette nouvelle armée, qui a la responsabilité de pouvoir sécuriser tout le monde.
Et donc la faute incombe au gouvernement.
Mais une fois de plus, il appartient au gouvernement de pouvoir garantir la sécurité des personnes et des biens à travers une armée véritablement républicaine qui inclut tous les fils et toutes les filles du pays désireux de pouvoir participer à l'œuvre de la reconstruction nationale.
Merci Jean-Lucien Boussa. Monsieur le ministre, il y a Omar Kavota de Benio Nord qui vous les accusez, les sent-ils à titre individuel ou en solidarité avec leur parti? Y a-t-il des sanctions prévues pour cela? Ibrahim de Kisangani en province orientale, jusque-là le gouvernement n'a pas de vrais justificatifs. Je pense que c'est la mauvaise gouvernance qui est à la base de cette situation à l'Équateur. L'AMP cherche à anéantir le MLC, sachant que les élections approchent et Patrick Ngongo Tshamala de New Delhi en Inde. Le gouvernement doit cesser de distraire la population. Les membres du gouvernement doivent travailler pour retrouver les vrais commanditaires. Ils aiment des réponses faciles, c'est pourquoi ils accusent l'opposition institutionnelle. Monsieur le ministre, comment vous répondez à ces auditeurs?
Je sens beaucoup d'amertume vis-à-vis du gouvernement chez ceux qui paraissent les plus critiques et qui appartiennent certainement à l'opposition. Je le sens même chez l'honorable député. Gouvernement irresponsable, gouvernement incapable, il n'y a que des mots comme ça qui sortent. Finalement, le peuple s'est trompé de choisir cette majorité. Non, je pense que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Et je sens beaucoup d'efforts de la part de l'honorable député de trouver des excuses à ceux qui ont tué des gens dans la province dont il est le représentant. Ceux qui ont détruit des infrastructures, ceux qui ont pillé, qui ont recruté des enfants, qui ont pris en otage un médecin espagnol. Donc on cherche des excuses. C'est parce qu'on ne les payait pas, c'est parce qu'on faisait ceci, cela. Dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Il n'y a pas qu'au Congo. Et nous, peut-être encore plus, parce que nous sommes dans une situation post-conflit que l'honorable, comme moi, nous connaissons très bien. Donc il est tout à fait normal que nous soyons obligés d'étendre sur une longue période les programmes de normalisation auxquels il fait allusion, qui ont été déjà adoptés par l'Assemblée nationale, qui doivent être effectivement exécutés par le gouvernement, mais cela peut prendre du temps, et le temps que cela doit prendre ne peut en aucun cas constituer une excuse ou une justification pour des actions criminelles de cette nature-là. Dites-moi, ce petit armateur qu'on tue en Bandaka, qu'est-ce qu'il a à voir avec le fait qu'on est en retard pour mettre en place la réforme de l'armée? Est-ce qu'il faut aller tuer des gens pour punir le gouvernement d'avoir retardé ou d'avoir été en retard pour trouver les moyens pour réformer l'armée? Cela ne peut pas se justifier, à mon avis. Je crois qu'il faut que tout le monde comprenne que lorsque des actions criminelles sont commises, ce sont les criminels qui en sont responsables. On ne peut pas chercher à inverser la responsabilité en la faisant porter sur le gouvernement. Parce que dès qu'il y a un gouvernement, on ne peut plus poser des actes criminels. Même aux États-Unis, peut-être le pays le plus structuré dans le monde, connaît des cas d'agression criminelle. Il y a des gens qui vont tirer sur des écoliers. On a vu ça. Des gens qui tuent 10, 20 personnes dans une cour d'école. Pourtant, il y a un gouvernement aux États-Unis. On a vu en France des gens commettre des actes criminels. On ne va pas reprocher au gouvernement parce qu'un criminel s'est manifesté quelque part. C'est la faute au gouvernement. Le gouvernement est irresponsable. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et quant aux accusations, puisque tout le temps le mot revient, le gouvernement accuse l'opposition. Je répète que nous n'avons accusé personne. Nous avons simplement relayé des informations sommaires qui ont été portées à la connaissance de nos services pour dire des gens ont été cités. Il n'y a que le parquet qui accuse et il n'y a que le tribunal qui peut condamner. Le gouvernement n'a pas le rôle d'accuser, qu'on ne nous fasse pas dire ce que nous n'avons pas dit. Nous n'avons accusé personne, mais des gens ont été cités et permettez-moi madame, mais nous ne pouvons pas ne pas relayer cela pour faire plaisir à je ne sais qui. Lorsque des gens sont cités, nous disons qu'ils ont été cités et nous leur laissons l'opportunité de pouvoir dire s'ils ont été cités à tort ou laisser au parquet l'opportunité de dire qu'ils ont été cités à raison et demander des sanctions qu'il convient d'appliquer. On ne peut pas interdire au gouvernement de dire que des gens ont été cités. Je ne comprends pas dans quel état on veut nous faire vivre.
Monsieur le ministre, en lisant les réactions des auditeurs, ils reviennent tous sur le même fait et ils ont l'impression que le gouvernement banalise un peu la question sécuritaire du pays.
C'est tout à fait faux de penser cela, puisque même quand l'honorable Boussa parle de ce qui s'est passé au niveau de Dongo, il omet de dire qu'aujourd'hui à Dongo, c'est la paix. Je ne sais pas si cette paix-là est revenue comme une sorte de génération spontanée, miraculeusement la paix est revenue. C'est parce qu'il y a eu une action du gouvernement. Action militaire, bien sûr, mais ensuite une action humanitaire et puis une action communautaire. L'État a encouragé, le ministre de la Défense est allé là-bas pour cela, le ministre de l'Intérieur y a été, nous avons encouragé le dialogue entre communautés. Que maintenant il y ait un petit noyau dur, je vous dis que les aînés en RDC ne sont pas que 106. Or, il n'y a que 106 qui se sont retrouvés en Ganda-Congo, d'où sont partis une soixantaine, entre 65 et 70, sur ce bateau Malaika, jusqu'à Mbandaka. Maintenant, même l'expert, M. Mwaka, a dit, ils sont venus à Mbandaka, puis ils sont repartis. Mais enfin, il faut quand même suivre les comptes rendus que l'on donne. Ils sont venus à 70. 38 ont été arrêtés. Ils sont maintenant capturés, on les juge, parmi lesquels beaucoup d'enfants qui n'ont rien à voir et qui vont être probablement rendus à leur famille parce qu'ils ont été amenés de force. Une vingtaine a été tuée, donc ça ne fait même pas 10 qui sont repartis, et vous nous dites qu'ils sont venus, ils sont repartis, ça fait donner une très fausse impression de ce qui s'est passé à Bandaka. Mais si on les a arrêtés 38, si on en a peut-être neutralisé définitivement une vingtaine, mais dites-vous bien que ce n'est pas par un souffle miraculeux que cela est arrivé. Mais parce que des jeunes gens des forces armées de la RDC se sont collectés à eux, les ont attaqués, c'est ainsi qu'on a eu ce résultat, que Mbandaka aujourd'hui a la paix qui est retrouvée, Mbandaka revit, c'est grâce à l'armée congolaise, même si on n'a pas pu prévoir cela, il n'y a aucun gouvernement au monde qui peut prévoir tous les comportements criminels dans le pays. Tout ce qu'on demande à un gouvernement, c'est d'être apte à réagir lorsque ce comportement criminel arrive et les
Français ont réagi pour reconnaître cela. Merci, Monsieur le ministre. Le secrétaire général du MLC dément les accusations du gouvernement relatives à ce qu'il qualifie de participation intellectuelle des députés de l'opposition dans les derniers événements de Mbandaka. Qu'est-ce qui justifie les accusations du gouvernement et comment analyser la réaction du MLC? C'est notre thème de ce soir. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours et pour en parler, je reçois dans cette émission Lambert Mendo Malanga, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement central, Jean-Lucien Boussa, député national et secrétaire général adjoint du MLC, chargé de l'idéologie et programme, et Arsène Mouaka, il est analyste et coordonnateur du Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. La suite de l'émission, juste après ce rappel de nos contacts. Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Voilà, Monsieur Arsène Mouaka, on va prendre une autre vague de réactions. Les auditeurs sont tellement nombreux à réagir au thème de ce soir. Serge Chabat de Bounou en province orientale, la réaction de l'opposition est fondée car il importe de dénoncer les terreurs des ficelles de cette affaire que d'être dans le tâtonnement des vrais acteurs. Arsène Mouaka.
Oui, bon, je crois que l'opposition doit pouvoir réagir, mais je crois que la meilleure réaction est institutionnelle. Moi, j'en appellerais plutôt à une stratégie commune, gouvernement, opposition, MONUC, et je crois qu'au centre de tout, c'est le gouvernement qui pratiquement ferait de la question sécuritaire la question de tout le monde. Donc, il ne s'agit pas d'une question privée pour un mouvement politique, c'est une question de la nation, et je crois que l'opposition doit pouvoir s'impliquer dans cette tendance plutôt que de chercher à réagir coup sur coup.
Et l'opposition doit chercher à s'impliquer de quelle manière? Comment l'opposition peut s'impliquer?
L'opposition est au Parlement. Elle doit pouvoir participer pratiquement à la gestion de la question sécuritaire à travers la commission qui s'occupe de la sécurité, mais aussi à travers tous les moyens de contrôle qui sont à sa disposition. Et donc, on ne va pas assister juste à une opposition qui s'occupe juste des censures, puisqu'il s'agit là d'une question des populations congolaises qui sont en train de souffrir, plutôt qu'une question de football où on voit une équipe en train de jouer et l'assister. Il s'agit des vies des Congolais et donc on ne va pas faire un match de football.
Voilà, Jean-Lucien Boussa, vous devez vous impliquer dans la gestion de la question sécuritaire du pays, vous, député de l'opposition.
Je crois que M. Mouaka a suivi mon développement tout à l'heure lorsque j'ai dit que depuis 2007, 2008, 2009, l'opposition en particulier et les parlementaires en général ont posé des questions précises par rapport à la problématique de la sécurité dans notre pays. Dès depuis qu'on a pris des initiatives parlementaires, question orale avec débat, etc., pour demander au ministre de la Défense et de l'Intérieur de pouvoir prendre à bras les corps la question sécuritaire dans le pays. C'est ça l'implication institutionnelle de l'opposition, et je dirais de tous les parlementaires. Là-dessus, tous les parlementaires à l'unisson ont agi de manière déterminée. Il appartient au gouvernement de pouvoir, n'est-ce pas, exécuter les recommandations, sinon les résolutions prises par l'Assemblée nationale ou le Sénat. Je voudrais aussi rappeler, lorsque le ministre parle de... Non, on aurait pu éviter. Si aujourd'hui nous sommes en train de responsabiliser le gouvernement, c'est parce que le gouvernement n'a pas pris des mesures au moment opportun. Et comme ça se passe dans les autres coins du pays, il aurait suffi que les mesures que le gouvernement est en train de prendre aujourd'hui aient été prises lorsque les députés nationaux et sénateurs, toutes tendances confondues, avaient sollicité ce type de mesures, on n'en serait pas arrivé là. Même pas à l'implication de l'armée. Mais à l'époque, c'était un conflit localisé. Il aurait suffi de pouvoir descendre sur le terrain, de responsabiliser les uns et les autres, de pouvoir interpeller les initiateurs ou les auteurs de ces mouvements dès le départ pour éviter tous les morts et tous les dégâts que nous connaissons aujourd'hui.
Vous avez proposé ça au gouvernement et le gouvernement fait la sourde oreille.
Le gouvernement a fait la sourde oreille comme il fait la sourde oreille pour d'autres questions que j'ai soulevées. Katanda, Boudjala, Bungana, etc., etc. Donc, nous nous sommes impliqués là-dessus. Donc, et puis, cette espèce de banalisation des questions sécuritaires, cette espèce de justification voulant priver
dans les faiblesses des Américains, dans les faiblesses des Européens. C'est pas ça la justification qu'un gouvernement doit présenter. Le gouvernement a pour obligation de sécuriser les personnes et les biens. C'est pas parce qu'on a tué en Inde, aux États-Unis, en Afghanistan, qu'on doit tuer au Congo. Et les ministres trouvent là une réponse adéquate pour dire nous ne saurons pas donc réaliser au maximum notre mission parce que ça se passe à travers le monde. C'est une réponse totalement malheureuse.
Monsieur le ministre, pourquoi le gouvernement fait la sourde oreille aux propositions de l'opposition pour mettre fin à cette situation dans la province de l'Équateur?
Je me demande bien ce qui fait dire à l'honorable Doussa que le gouvernement fait la sourde oreille. Tout ce qui a été fait. Il a dit, nous avons demandé au gouvernement de descendre sur les lieux. Aujourd'hui, les lieux sont occupés, contrôlés totalement par les services nationaux, police nationale, c'est nous qui sommes là. Alors, où est-ce qu'il peut trouver que nous ne sommes pas descendus sur les lieux? Il a dit, nous avons demandé au gouvernement de parler avec les gens, les principaux protagonistes. C'est ce que nous avons fait. Je vous ai parlé du dialogue intercommunautaire qui était le cœur de notre gestion de ce problème tel qu'il a été créé dans cette partie du district du Sud-Ubangi. Il a dit qu'il fallait arrêter les responsables. Bien sûr, on peut lancer des mandats, c'est fait, des mandats ont été lancés, mais comme dans tout pays du monde, je ne sais pas s'il voudrait que le Congo soit une sorte d'île dans un monde idyllique, mais en tout cas, partout au monde, on peut lancer des avis de recherche, lancer des mandats contre des criminels, et ils sont enfouis, ça arrive, et on met le temps qu'il faut, on met les moyens qu'il faut pour pouvoir les arrêter. Donc nous avons arrêté quelques criminels, ils sont en train de comparaître les uns ici à Kinshasa, les autres à Guémena, d'autres maintenant à Bandaka, il y a un noyau qui est en fuite. Où est-ce que l'honorable trouve quelque chose d'exceptionnel qui ne se passe jamais ailleurs pour dire que nous n'avons pas fait ce que la représentation nationale nous a recommandé? Donc, je me répète, nous sommes sur place comme ils l'ont souhaité. Nous avons rétabli un dialogue intercommunautaire puisque maintenant, on ne se bat pas à Dongo, on ne se bat pas dans le territoire de Kungu. Ce sont les fuyards qui ont créé un problème. En Bandaka, la justice nous dira ce qu'ils voulaient faire. En Bandaka, est-ce que c'est assassiner certaines personnalités comme le gouverneur dont ils ont visité la résidence ou quoi? Est-ce que c'est piller? Est-ce que c'est prendre des armes pour d'autres aventures? Bon, la justice nous le dira. Mais ce sont des fuyards. Donc des fuyards qui sont en fait des gens qui vont être un jour ou l'autre arrêtés. Je ne vois pas ce que le gouvernement n'a pas fait des recommandations qui sont venues du Parlement.
Oui, monsieur le ministre, il y a placé une visa de Stockholm en Suède. Il dit, je demande avec insistance au gouvernement de cesser de présenter la communauté Nélé dans son ensemble comme des terroristes, car dès lors que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement avait dévoilé l'identité des insurgés de Mbandaka, à mon humble avis, on ne peut plus continuer à faire l'amalgame de l'identité des insurgés. Il serait bon qu'on les appelle les voyous du village en lieu et place de l'identité de toute une communauté. Monsieur le ministre, rapidement.
Je lui donne tout à fait raison et je lui demande réellement de m'excuser si dans le feu du débat j'ai pu parler des Nielé. C'est vrai, pour le gouvernement et comme d'ailleurs un peu avant, tous les Nielé ne sont pas concernés. Et 106 Nielé, ce n'est pas les Nielé. Et d'ailleurs, dans les 106 qui ont été trouvés, localisés en Gandak, parmi lesquels un groupe est venu à Bandaka, il n'y a pas que des Nielé. Ce sont des malfaiteurs, ils se sont identifiés eux-mêmes, bandits du village ou je ne sais quel regroupement là-dedans, je n'ai plus bien les initiales.
Merci,
il y a des Nielé, très bons citoyens qui sont sur place là-bas, qui vivent en bonne intelligence avec les Mondayas et tous les autres groupes ethniques, ceux-là constituent la majorité. Donc pour le gouvernement, il est hors de question de présenter les auteurs de cet assaut criminel sur Bandaka comme des Nielé. Ils sont même pas représentatifs de cette population. Il a tout à fait raison.
Merci, monsieur le ministre. Je considère ça aussi comme votre conclusion parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Jean-Lucien Boussard, dernier mot.
Ce que nous reprochons au gouvernement, c'est sa réaction tardive après que des conséquences multiples aient été enregistrées. Le gouvernement aurait pu intervenir dans le délai, on aurait évité tout ce qu'on connaît aujourd'hui.
Merci, honorable Jean-Lucien Boussa. Arsène Mouaka, votre conclusion.
Oui, je crois qu'il est temps qu'on puisse s'attarder sur les résultats, essayer de voir ce qui a été à la base de ce phénomène Enyele. Je crois que c'est un phénomène qui ressemble un peu au phénomène de Banyamulenge, qui sont des phénomènes pour tout. Mais alors, il faut revenir à ce qui a été manipulé, la gestion des États, qu'est-ce que cela est devenu, la responsabilité individuelle de certains députés et non pas de tout un mouvement qui n'a rien à foutre dedans, et la responsabilité individuelle du chef de bande ou Djani. Je crois que ce sont des questions auxquelles on doit répondre pour s'apesantir sur la sécurité des citoyens.
Merci M. Arsène Mouaka, c'est la fin de cette émission. Merci à Guy Mathieu-Alain, Samuel Katchak et Emi Kamoua sous la supervision de Martin Sibli-Jangoui qui nous ont aidés à préparer cette émission. La technique était assurée par Alain Goy. Au micro, Kevin Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de programme sur la fréquence de la paix.